Code philosophie éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 16 décembre 1999, à Saint-Jean-d'Arc.
La contemplation philosophique religieuse est-elle analogue à la contemplation artistique en tant qu'elle est au-delà de toute détermination? Il y a une très grande différence entre la contemplation artistique et cette contemplation religieuse. Il faut voir la différence. La contemplation artistique, au sens fort, ne finalise pas. Tandis que la contemplation que nous faisons au point de vue philosophique, que nous pouvons faire au point de vue philosophique, finalise, parce qu'elle est un Dieu. Donc là, il y a une très grande différence entre les deux. La contemplation artistique contemple une œuvre artistique, quelque chose que l'homme a fait. Alors, il y a une certaine contemplation artistique, c'est évident, vis-à-vis du beau, la beauté. La beauté ne finalise pas l'homme. Ça lui permet un dépassement à l'égard d'une quantité d'aspects plus terrestres, mais ne finalise pas entièrement, ne donne pas le bonheur. Et fait toucher simplement quelque chose qui dépasse l'horizon habituel, elle reste sensible, tandis que la contemplation philosophique dépasse, ça, nous le verrons progressivement, dépasse au point de vue sensible. Est-ce que le philosophe peut contempler Dieu, l'être premier, avant l'induction de la substance? Oui. Avant l'induction de la substance et avant l'induction de l'être en acte. Si la contemplation n'est pas le fruit d'une analyse, il me semble que oui. Pouvez-vous m'éclairer? Il me semble que non. Comprenons bien. Tant que je n'ai pas découvert l'existence de Dieu comme celui qui est l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, tant que je n'ai pas découvert Dieu comme principe créateur, peut-il y avoir une contemplation? Je ne crois pas. Alors, évidemment, je comprends ce que ça veut dire. Il peut y avoir des degrés dans l'induction, dans la saisie du principe. C'est plus ou moins net, c'est plus ou moins précis. Ce que j'ai essayé de vous exprimer tout à l'heure. Mais l'induction, la découverte des principes propres de ce qui est, permet la découverte de l'être premier. C'est finalisé par cela. Donc je ne m'arrête pas à l'induction. Je m'en sers. Exactement comme l'induction de l'acte. Ces deux inductions permettent un dépassement et permettent la découverte propre de l'existence d'un être premier. Et c'est quand il y a eu cette découverte de l'être premier qu'il y a adoration au sens fort. L'adoration peut se faire à partir des traditions. Ça, c'est sûr. Mais cette adoration n'a pas la précision qu'elle pourrait avoir. Mais les traditions religieuses permettent l'adoration. Beaucoup, beaucoup d'hommes religieux qui ne connaissent pas le christianisme, qui ne connaissent pas la révélation, s'appuient sur la tradition, sur les traditions religieuses, pour adorer. Et c'est suffisant. Mais ici, nous essayons de comprendre ce que la métaphysique, la philosophie première, nous apporte. Donc je me mets au-dessus. Je pourrais faire un cours sur les diverses traditions religieuses. Ce ne serait pas un cours métaphysique. Et ces diverses traditions religieuses me montrent qu'il y a une possibilité d'adoration. Heureusement, l'adoration n'est pas réservée aux métaphysiciens, aux philosophes. Elle est donnée à tout homme qui cherche la vérité et qui respecte ses traditions religieuses. Et ces traditions religieuses permettent une certaine adoration. On est dans l'ordre pratique, hein, faut pas l'oublier. L'adoration, c'est de l'ordre pratique. C'est pas spéculatif. On passe de l'adoration à la contemplation. Et justement, si l'adoration reste un peu uniquement liturgique, comme très souvent, quand je vois les adorations que font la plupart du temps les hommes religieux, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient simplement dans des traditions religieuses chinoises, on sent bien que la bonne volonté, le désir de découvrir un être premier reste assez vague. D'où la très grosse difficulté d'atteindre la contemplation. Très grande difficulté. Quand vous parlez à un musulman de la contemplation, ça reste assez vague. Vous voyez, alors il y a deux recherches différentes. Hein. Nous nous plaçons nettement dans la recherche philosophique. On ne nie pas du tout les autres choses. On ne les nie pas. Elles existent. Et elles sont bonnes. Si on avait le temps, on ferait un cours sur les traditions religieuses. Et on verrait que les traditions religieuses permettent une véritable adoration. Mais je ne dis pas une véritable contemplation. C'est, je crois, la très grosse différence. Donc, ici, avant l'induction de la substance, vous pouvez vous appuyer sur les traditions religieuses. Donc, à ce moment-là, vous aurez une adoration. Est-ce que cette adoration conduira à une contemplation? J'en suis pas sûr. Est-ce que Dieu se laisserait lui-même d'être contemplé philosophiquement si le philosophe est un chrétien? Si le philosophe est un chrétien, la contemplation de ce philosophe est normalement chrétienne. Mais ce chrétien philosophe peut, ce que nous essayons de faire, montrer qu'il y a une certaine contemplation philosophique. Mais nous ne vivons pas de cette contemplation philosophique, nous vivons de la contemplation chrétienne. Parce qu'on vit toujours de ce qu'il y a de plus parfait. Je ne vais pas vivre de quelque chose qui peut me conduire à une adoration très belle, parce que l'adoration relève de la vertu de religion et donc relève d'une vertu, alors là, la philosophie permet d'avoir une adoration beaucoup plus parfaite. Au point de vue adoration. Et au point de vue chrétien, ma vertu de religion est transformée par la foi, est transformée par la foi et la charité. Et donc je ne m'arrête pas à cette contemplation philosophique. Je sais qu'elle existe, mais je ne m'arrête pas à cette contemplation. Au point de vue pratique, je vais toujours le sommet. Je n'ai pas le droit de m'arrêter dans l'ordre pratique. Donc, vous voyez, distinguons bien les deux. Est-ce que Dieu se laisserait lui-même d'être contemplé philosophiquement si le philosophe est un chrétien? C'est pas Dieu qui se laisserait contempler philosophiquement, c'est le philosophe, c'est l'homme. Est-ce que le chrétien, lorsqu'il veut contempler Dieu, veut se rabattre sur une contemplation philosophique? Je dirais non. Sa philosophie va l'aider à avoir une contemplation théologique plus parfaite. Et sa contemplation théologique va s'effacer devant la contemplation mystique. Je suis dans l'autre pratique, là. C'est la prudence, quoi. Alors, vous voyez, si je voulais poser correctement la question, je dirais ça. Est-ce que, je ne dirais pas Dieu se laisserait contempler, je dirais, est-ce que ma prudence chrétienne doit laisser le terrain libre de la contemplation philosophique, à la contemplation philosophique? Je n'ai pas le droit de faire ça. Je mettrai entre parenthèses ma foi chrétienne. Je ne peux pas la mettre entre parenthèses. Dans l'ordre pratique, si je suis chrétien, c'est ma foi chrétienne qui l'emporte. Et puis je peux analyser, et c'est très bien, d'analyser à ce moment-là ce que l'intelligence humaine peut dire, c'est ce que nous faisons. Mais quand je vis, quand j'essaie de vivre ma contemplation, mais je me mets tout de suite au point de vue chrétien, je me mets tout de suite au point de vue de la révélation chrétienne, tout de suite. Je ne cherche pas à vivre de ma philosophie si je suis chrétien. Je vis chrétiennement et la contemplation philosophique m'aide à me purifier de toutes sortes d'imaginations pour que ma contemplation chrétienne soit plus parfaite. J'espère que vous comprenez ça. C'est la différence entre le point de l'ordre pratique et l'ordre prudentiel. Donc c'est une question de prudence. Ce n'est plus une question philosophique, c'est une question de prudence. Est-ce que ma prudence chrétienne va permettre à ma prudence philosophique de régner et donc de me laisser contempler philosophiquement? Je dis non, puisque je peux contempler plus. Essayons maintenant de voir ce passage de l'adoration à la contemplation. Je précise quelque chose que je n'ai peut-être pas suffisamment précisé avant. Je dirais que le premier fruit de la contemplation, le premier fruit de mon adoration, et là, la métaphysique m'aide. Ça, j'en suis sûr. Quelqu'un qui a vraiment découvert l'existence de Dieu au plan philosophique, ça l'aide à adorer. Parce que l'adoration relève d'une vertu religieuse, vertu morale acquise. on doit acquérir la vertu de religion. Ça s'acquiert. Et là, la philosophie, la métaphysique aide beaucoup. Ça, j'en suis sûr. À me stabiliser beaucoup plus profondément dans l'adoration. Avoir une adoration beaucoup plus affinée. Par le fait de ce jugement philosophique qui atteint la présence du Dieu créateur, qui atteint ce regard nouveau sur mon âme spirituelle, créée par Dieu. Que je sois philosophe et que je sois en plus chrétien, il y a quelque chose qui reste acquis, et tout ce que je peux acquérir par la philosophie, je dois l'acquérir si je suis chrétien. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens, et même de théologiens, ne voient pas. Ils disent, à la foi, c'est tout. Et la philosophie n'aboutit pas, pas du tout. La philosophie aboutit à découvrir l'existence de Dieu, et ça, je peux le dire en tant que croyant, et je dois même le dire en tant que croyant. Autrement, je n'accepte pas la tradition de l'Église, qui est nette là-dessus. Paul VI l'a dit avec netteté, notre pape le dit avec netteté. Or, découvrir l'existence de Dieu me permet d'acquérir tout de suite la vertu de religion. La vertu morale de religion. Et de l'acquérir en faisant des actes d'adoration. Je ne suis pas dispensé des actes d'adoration parce que je suis chrétien. Et ces actes d'adoration prendront toute leur acuité qu'à travers le point de vue de mon intelligence qui a découvert l'existence de Dieu. Je crois ça très, très important pour ne pas tomber dans le fidéisme. Celui qui dit, par exemple, « Oh, je n'ai pas besoin des voies de l'existence de Dieu parce que je crois. » Eh oui, mais la foi ne vous donne pas la science métaphysique et l'habitus métaphysique. Ayant acquis l'habitus métaphysique, votre acte d'adoration et donc l'acquisition de la vertu de religion va être beaucoup plus parfaite, avoir une acuité beaucoup plus grande. Et vous devez acquérir ça. Et si vous n'acquérez pas ça, toute votre étude théologique dépendra à ce moment-là d'une foi qui n'est pas entièrement correcte, parce qu'il y a un certain fidéisme, par paresse. Et la théologie ne favorise pas la paresse. Si je suis paresseux en disant oh, « la foi me donne ça, donc je n'ai pas besoin de la métaphysique », ça, c'est pas du tout le point de vue johannique. Et depuis que le Saint-Père a écrit cette encyclique, c'est grave de dire ça. Mais il y a là quelque chose de très très important pour nous. Et de vivre nous-mêmes, parce que nous avons besoin d'avoir une adoration très très fervente, très réaliste et très purifiée. Alors, le fruit premier de l'adoration, c'est de comprendre que grâce à l'adoration, je peux acquérir cette vertu de religion qui elle-même va me donner une attitude d'abandon à l'égard du Père créateur de mon âme spirituelle, de Dieu Père. Et je m'abandonne à celui que j'adore. Je ne peux m'abandonner qu'à celui que j'adore. Et je m'abandonne en mesure même que j'ai saisi avec plus ou moins de force celui qui était mon créateur et mon père. Vous voyez, pour découvrir la paternité de Dieu sur mon âme spirituelle, j'ai besoin d'adorer et de comprendre que l'adoration va se prolonger en une attitude d'abandon. C'est-à-dire, je comprends que Dieu est mon Père et qu'il veille sur moi. Et si Dieu veille sur moi, je m'abandonne à lui. Et je reconnais que cette attitude d'abandon est nécessaire à ma vie religieuse. Je ne peux pas être un vrai religieux, c'est-à-dire un homme qui adore. Je ne peux pas être un vrai religieux si je n'ai pas cette attitude d'abandon total envers Dieu qui m'aime. Et ça, c'est très important. C'est très important de le comprendre. L'abandon, c'est la remise complète de tout ce que je peux faire entre les mains de Dieu. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et je peux le faire quand j'adore Dieu. Parce que je touche Dieu comme créateur et comme père. Je ne m'abandonne pas au sens strict au créateur, je m'abandonne au père. L'abandon implique un acte de dévotion au sens propre. Je peux me remettre entre les mains de Dieu. Et me remettre entre les mains de Dieu, c'est faire cet acte d'abandon. Je ne m'affole plus, je ne m'inquiète plus, je dépasse l'attitude de nervosité, d'affolement dans laquelle je suis facilement. Et je me remets entre les mains de quelqu'un qui, m'ayant créé, ayant créé mon âme, la garde. Donc, je me remets entre ses mains. C'est ça l'abandon, c'est de respecter ce regard de Dieu sur moi comme père et de savoir que je ne peux avancer paisiblement que si je suis porté par lui, que si lui et moi, dans la mesure où je peux, je me remets entre ses mains. Cette attitude-là est très fondamentale, vous voyez. Et elle est cette attitude de confiance totale envers mon Père, mon Créateur. Je peux, à partir de là, construire ma vie. Elle repose. Et c'est cela qui me permet d'aller plus loin sans aucune l'abandon me permet d'avancer dans la joie et l'abandon implique vraiment ce sens de la supériorité absolue de Dieu sur moi, ce sens religieux qui consiste à voir que si Dieu m'a créé, il m'a créé en vue d'un bonheur, pour mon bien. Dieu a créé mon âme spirituelle pour elle-même. Vous voyez, je reviens à ce sens de l'acte créateur de Dieu, créateur de mon âme. C'est non seulement sa toute-puissance, mais c'est aussi sa sagesse. Il l'a créé pour moi. Et dans cet acte de remise complète entre les mains de Dieu, il y a cette attitude affective et aimante. L'adoration est un acte d'amour, et c'est un acte d'amour qui se continue dans une remise complète de toute ma destinée, de tout ce que je puis faire entre les mains de Dieu. Et je reconnais que tant que je n'aurai pas tout abdiqué entre les mains de Dieu, je ne serai pas abandonné. Que je suis remis entièrement entre ses mains. Alors voyez, c'est ce moment-là qui, je crois, est indispensable pour comprendre le recul de la contemplation. On ne peut pas immédiatement contempler après l'adoration. L'adoration, c'est un effacement. Je m'efface en face de Dieu et je me remets entre ses mains. Dieu peut faire de moi ce qu'il veut. Et donc, il y a vraiment un effacement. Pas un anéantissement, hein, mais un effacement. Je suis très conscient de ce don merveilleux que Dieu m'a donné en me donnant une âme qui fait que je suis semblable à Dieu, que j'ai quelque chose, et bien je serai semblable à Dieu dans la mesure où je m'abandonne à lui et dans la mesure où je comprendrai que la contemplation même que Dieu a de lui, cette contemplation, je puis en participer. Et c'est ça qui va stabiliser mon abandon. Tant que je suis uniquement dans l'adoration, je suis incapable de prendre des initiatives. Je suis incapable de faire quelque chose. On se reconnaît comme totalement incapable par nous-mêmes, puisque tout vient de lui et que tout doit retourner vers lui. Mais comment tout retourne vers lui ? Tout vient de lui, l'adoration. Tout doit retourner vers lui. Ah, alors c'est à ce moment-là où il faut que j'ai suffisamment de recul pour comprendre que je puis, parce que Dieu est infiniment accueillant, que je puis commencer à marcher vers lui. Et parce que je puis m'abandonner à lui parce qu'il m'aime, parce que cet acte créateur est un acte souligné, que je suis entre ses mains et qu'il me demande d'agir raisonnablement, pas seulement de l'adorer, mais de coopérer avec lui. Pour coopérer avec lui, il faut justement comprendre ce que c'est abandon. L'abandon est comme la condition sine qua non pour la contemplation. Elle n'est pas cause de la contemplation, mais elle est une condition sine qua non. L'adoration me conduit à l'abandon, et grâce à l'abandon, je peux m'éveiller à la contemplation de Dieu. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important ces trois moments. Adoration, abandon, l'attitude d'abandon et de me remettre entièrement entre ses mains, et puis ensuite la contemplation. Troisième moment. Pour ce troisième moment qui est la contemplation, il faut ce recul. Mais ce recul, vous voyez, qui n'est pas un regard sur moi, qui est un regard sur l'acte d'adoration de Dieu sur moi. Ce n'est pas la même chose. Je me vois enveloppé par l'acte d'adoration de Dieu qui ne veut pas m'anéantiser, mais qui veut, au contraire, m'épanouir pleinement auprès de lui. Et m'épanouir pleinement auprès de lui exige de moi cet acte de remise complète entre ses mains. Et un acte positif d'abandon. Hein. Ce n'est pas simplement m'effacer. C'est un acte positif. Je me repose sur lui. Et je sais que je vais me reposer sur lui. Parce que Dieu est bon. C'est la bonté du Père. Et la bonté du Père qui reçoit son enfant. La bonté du Père qui lui pardonne toutes ses bêtises. La bonté du Père qui veut cette remise entièrement entre ses mains. Et une fois qu'il y a cette remise totale entre les mains de Dieu, et par le fait même qu'on reçoit le pardon, et qu'on sait que Dieu me pardonne pour tout ce qu'il y a eu avant, et qui n'a pas été toujours exactement ce que ça aurait dû être, le pardon va se situer, voyez, dans cet abandon, ce regard de Dieu. Si Dieu ne me pardonnait pas toutes les bêtises que je fais, je n'oserais jamais contempler. Mais s'il y a un véritable pardon, alors à ce moment-là, c'est différent. On pourra creuser ça, vous voyez, avec tout point de vue de la liturgie du jubilé. C'est vraiment redécouvrir comment Dieu est Père et pardonne. Et redécouvrir par le fait même cet abandon très très foncier. Je crois que ça c'est important. Autrement dit, c'est à l'égard de Dieu Père que je m'abandonne entre ses mains. Paternité de Dieu fait que je le laisse toujours déterminé. Et je reçois ses déterminations, je reçois ses orientations. Et la première orientation que Dieu réclame de moi, la première dans le sens non pas génétique, mais dans le sens de noblesse, c'est le contempler. Je peux le contempler. J'ai la capacité de le contempler parce que je l'ai adoré et que je me suis remis entre ses mains. Je crois que je ne peux pas contempler Dieu s'il n'y a pas l'adoration. Au point de vue philosophique, c'est très très net. Je ne peux pas contempler Dieu s'il n'y a pas l'adoration. Et l'adoration demeure toujours. Et dans cette contemplation philosophique de Dieu, métaphysique de Dieu, cette contemplation, c'est regarder l'amour de Dieu pour moi, sa miséricorde, il m'a pardonné. Je contemple sa bonté, la bonté du Père. Le Père pardonne parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est bon. Alors, au sens strict, on vit sa miséricorde dans le pardon. Et cela n'est pas encore la contemplation. Cela fait partie de cette remise complète entre ses mains. Alors, on pourrait analyser comme ça, adoration, remise totale entre les mains de Dieu, pardon, contemplation. Un peu. Et je crois que ça l'est très juste. Il y a un pardon de nos fautes au plan philosophique. Le pardon de mes fautes ne se comprend que dans un regard de sagesse et à l'égard du Père. Et c'est le Père qui pardonne, c'est pas le Créateur, au sens strict. Au sens strict, c'est une relation filiale qui implique le pardon. Parce que Dieu, quand il pardonne, se sert de nos faiblesses pour nous appeler à le contempler. C'est pour ça que, sans doute, ce pardon est là, très très précis. Et qu'il y a une remise profonde entre les mains de Dieu, dans le pardon pour le contempler, contempler sa bonté. C'est sûrement cette contemplation de la bonté de Dieu, de son amour, qui est première. Ce n'est pas la simplicité, vous voyez, quand je regarde du point de vue pratique, quand j'étudie les différents attributs de Dieu, je peux parler de simplicité, mais ça c'est un regard de théologien. Je ne crois pas que c'est le regard du philosophe en premier lieu. Le regard du philosophe en premier lieu, c'est beaucoup plus la bonté, la miséricorde et la bonté. Dieu m'a pardonné mes fautes, alors je peux. Mais je ne suis pas digne d'entrer dans sa maison. Je l'ai adoré, je lui ai demandé pardon de mes fautes. Et cela se fait dans la contemplation de sa bonté, de sa miséricorde. Et c'est la contemplation de la bonté et de la miséricorde de Dieu qui se fait et qui est première pour moi au point de vue philosophique vis-à-vis de sa contemplation. C'est la bonté du Père. C'est la miséricorde du Père que je contemple en premier lieu et qui me met alors dans une attitude d'intimité. Je m'approche de lui, je me laisse attirer par lui, je me laisse prendre par lui, la bonté du Père et sa miséricorde. Alors on essaiera de comprendre quelle est la contemplation de cette bonté.